Voilà, j'aimerais que nous puissions tourner nos yeux vers l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, versets 59 et 60. Et bien entendu, comme c'est le jour de Pâques, nous allons quand même toucher à ce qui concerne la résurrection. On ne peut pas, un jour comme cela, même si nous vivons cela toute l'année, ne pas prendre nos marques et profiter de ces moments-là, pour ceux qui nous visitent aussi, et bien de redire et répéter ce que signifie pour le véritable chrétien la Pâque, ce qu'elle signifie, la résurrection de Jésus. Et il nous est dit que Joseph d'Arimathée prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Amen. Eh bien, nous avons là, vous n'avez pas remarqué qu'on s'était arrêté là. Hein, voilà, on s'est arrêté à la mort finalement, on s'est arrêté au tombeau, on s'est arrêté à la pierre. Et Jésus venait d'être crucifié. Jésus gisait là dans le tombeau. Et il y avait une énorme pierre qui était roulée. Elle était là comme un obstacle entre la vie et la mort. Cette pierre, elle était roulée, elle scellait en fait l'ouverture de la porte. Et chacun avait le sentiment à ce moment-là que tout était fini. L'Écriture nous dit qu'il y a eu un groupe de femmes qui se tenaient là. Il y avait dedans Marie de Magdala. Elle était assise de l'autre côté du tombeau. Et ces femmes avaient le cœur brisé. Certainement, dans leurs pensées, pensaient-elles, qu'est-ce qui va se passer maintenant que le maître n'est plus là? Le maître est parti, comment allons-nous continuer l'œuvre? Qu'est-ce qui va se passer? Et elles n'étaient pas les seules, ces femmes, puisque nous voyons dans Luc 24, l'épisode des disciples du chemin d'Emmaüs. Et ces personnes, ces disciples étaient dans la même situation. Ces personnes, eh bien, voyez comme une pierre roulée, elles en étaient restées aussi à la mort de Jésus. Elles en étaient restées à la mort de Jésus. La pierre était pour eux toujours roulée. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé concernant Jésus. Et quelle était l'œuvre que Dieu accomplissait à travers cette mort. Et ils étaient comme désespérés. Leurs yeux, nous est-il dit, étaient appesantis, leurs yeux étaient accablés par la tristesse, leur cœur était pesant, leur cœur était lourd, et du coup leurs yeux étaient empêchés de voir la manifestation qui était devant eux de la personne de Jésus. Et combien peut-être, eh bien, à cette époque-là, à ce moment-là, ont été comme étant le cœur brisé. Aujourd'hui, évidemment, nous connaissons la fin du récit. Nous savons que lorsque Jésus a dit sur la croix que tout avait été accompli, qu'il avait vaincu le péché, il avait expié le péché, comme Jean le Baptiste l'avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et nous savons donc qu'avec sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, et nous savons qu'il a fait tout cela pour nous. Mais si nous n'avions pas connu la fin du récit, peut-être que nous serions comme ces femmes au tombeau, peut-être que nous serions comme ces 11 disciples qui, nous est-il dit dans l'évangile de Jean, eh bien, se cachaient à distance derrière des portes fermées. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer ce que la mort de Jésus signifiait pour les disciples. Ils avaient cru que le maître était le Messie, ils avaient cru que le maître, eh bien, c'était l'espoir pour eux, que c'était le salut d'Israël, que c'était la lumière des nations, et finalement, qu'il était aussi la lumière pour les gentils, les païens. Ils avaient vu Jésus à l'œuvre, guérissant les malades, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, du malin. Il l'avait vu ressusciter des morts, Lazare et d'autres, la fille de Jaïrus. Il l'avait vu libérer des captifs. Il l'avait vu guérir des hydropiques, des lunatiques. Il les avait vu guérir, Jésus avait guéri l'homme à la main sèche. Il l'avait vu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Et vraiment, Jésus était l'incarnation du nouveau royaume à venir, ce royaume que lui-même prêchait, que d'autres avaient prêché même avant lui. Alors qu'ils repensaient certainement à ces paroles sur la croix, tout est accompli, eh bien certainement qu'ils ont pensé qu'il voulait dire que c'était fini. Ils ont peut-être cru que Jésus voulait dire « j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je ne pouvais pas aller plus loin, ici c'est la fin du récit, point final ». Peut-être ont-ils cru cela. En tous les cas, eh bien, ils étaient dans une certaine vision, dans une certaine position, ainsi que les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le premier point que j'aimerais développer, c'est que le croyant qui en reste là, ben, il est d'un certain côté de la pierre. Il y a deux côtés. Il y a du côté, eh bien, comment dire cela, vous avez la pierre et puis on est juste à côté, on regarde la pierre. Il y a cette vision-là, puis il y a l'autre vision qui regarde de l'autre côté de la pierre, à l'intérieur du tombeau. Et quand nous avons des épreuves, quand nous avons des difficultés, eh bien, on en est peut-être là où en étaient les disciples. On oublie que Jésus est ressuscité. On oublie que Jésus est vivant et on se dit, que va-t-il advenir ? Tout est fini. On ne voit pas au-delà de notre situation, on ne voit pas au-delà de la porte du tombeau. On ne voit pas au-delà de la pierre qui se trouve là devant nous et qui est comme une situation de mort. Une situation qui pue, la mort pue. Lazare, il nous a dit que la mort avait déjà fait son œuvre et il sentait depuis 3 jours ou 4 qu'il était dans le tombeau, il sentait. Et bien souvent dans les situations de mort que peuvent vivre des enfants de Dieu, des personnes dans ce monde aussi, et je ne parle pas de la mort physique, mais de situations qui sont comme une situation de mort. Notre sœur vient de nous parler de cette situation d'échec, une chaîne qui était là et qui était comme un empêchement pour notre sœur de réussir ses études, de réussir des choses dans la vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, frappés par des coups du sort. On se demande parfois d'où ça vient. Mais il y a aussi des chaînes spirituelles, et c'est ce qu'elle nous a expliqué. Et c'est une situation de mort. Le diable n'a pour but pour chacun de nous que de nous détruire. Il ne nous aime pas, il n'aime pas les êtres humains. Il s'acoquine avec certains êtres humains, mais il ne les aime pas. Le royaume des ténèbres n'est pas un royaume d'amour. C'est un royaume d'intérêt, c'est un royaume de rapine, c'est un royaume où on ravit, on égorge, on détruit. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour, de joie, de sacrifice pour l'autre. Et quand nous sommes dans ces situations-là, bien, on ne voit plus que la situation de mort, on ne sent plus que l'odeur de mort. Et évidemment, le diable se réjouit de nous placer dans de telles situations. Le diable se réjouit quand quelqu'un a une pierre à ses pieds. Le diable se réjouit quand il y a de la morbidité, il y a une situation qui est là, qui est vraiment mortifère, mortelle, et empêche la personne d'avancer. Et alors, souvent, la vision n'est que celle-là, la vision d'une pierre roulée qui constitue un obstacle en permanence devant nos yeux et qui est comme la séparation, finalement, de tout espoir à venir. C'est juste la vision qu'il y avait de ce côté de la pierre, finalement. Et comme les femmes au tombeau, comme ces disciples déprimés qui étaient enfermés avec les portes bien barricadées, eh bien, parfois l'enfant de Dieu ne peut plus voir devant lui que défaite, consternation, étonnement devant la situation, une situation qui paraît impossible à résoudre. L'espoir est comme mort. Et on se dit en nous-mêmes, fin de l'histoire, point final. Parfois, cela génère des problèmes d'identité dans le sens où, ben, si on en avait déjà des petits problèmes d'identité, ben, on va en avoir encore davantage parce qu'on se dit, je suis enfant de Dieu et rien ne se passe. Je suis enfant de Dieu, mais il semble que la main du Seigneur n'est pas sur moi. La bonne main du Seigneur n'est pas là pour me délivrer. Où est le Seigneur dans cette situation ? Il semble qu'il y ait comme un silence. Je vous le dis tout de suite pour vous délivrer. Même quand le Seigneur semble silencieux, il n'a jamais été aussi présent à nos côtés. Simplement, il y a ce silence, effectivement. Mais sa présence est là. Et c'est celle qui nous tient. C'est cette présence-là qui nous rend fidèles. C'est cette présence qui nous permet de nous garder, de nous maintenir debout, tout simplement. De nous maintenir dans la foi. Et on se demande comment on fait pour encore avoir la foi malgré la situation qui est là, malgré les difficultés qui sont là. Il y a comme un problème d'identité. On ne sait plus qui on est en Christ. On ne sait plus si on est vraiment un chrétien. On se demande même si on a bien fait de devenir chrétien dans de telles situations. On est sens dessus-dessous, comme disait Raymond Devos. Il y a une souffrance qui est liée ici à une vie chrétienne fade. Parce qu'on se dit d'un seul coup, ma vie chrétienne, elle est fade. Il n'y a pas de victoire. J'ai une situation la désespérée. Il n'y a rien qui se passe. Peut-être même quelqu'un dira, moi je suis dans une prison intérieure. Je suis dans la souffrance intérieure. Je m'aperçois que mon passé me rejoint. Mon passé me réclame. Mais en vérité, dans ce silence qui se déroule, dans cette épreuve qui est la nôtre, dans ces difficultés qui sont les nôtres, Dieu n'est pas loin. Et Dieu est déjà à l'œuvre. Et il est déjà en train de préparer l'issue. Simplement, nous ne le savons pas encore. Et si bien des choses remontent, et si bien des choses sont là, eh bien, qui semblent briser notre cœur, c'est pour que nous en soyons délivrés, c'est pour que nous soyons guéris dans notre cœur, c'est pour que nous puissions avancer, être détachés de ces choses, libérés de ces choses. En fait, Dieu est en train déjà de briser les chaînes. Dieu est déjà en train de briser ce qui cause notre détresse. Il voit nos larmes. Il voit notre cœur. Il voit notre déprime. Il voit les pressions qui sont sur nous. Et il veut que nous vainquions ces pressions. Mais nous devons passer par ces moments-là, parce que ça va être libérateur. La Bible nous dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais il a déjà préparé l'issue. Il a déjà préparé la sortie de secours. Dieu était à l'œuvre déjà du côté de la pierre où on ne voyait pourtant pas encore la résurrection poindre à l'horizon. Et sans savoir ce qui se passe du côté de la pierre, nos vies peuvent être remplies de traumatismes, de toutes sortes de craintes, de toutes sortes bien de choses qui nous plongent plutôt vers les ténèbres, vers la noirceur, vers la dépression, vers l'abattement. De ce côté-là de la pierre, il y a tel mari ou telle femme qui va voir son conjoint le quitter, une autre demander le divorce, un autre perd sa maison, un autre a des problèmes financiers qu'il n'arrive pas à résoudre, un autre va voir ses biens saisis. Il y a des situations comme ça. Un autre, plus rien ne va plus aller au travail. Il y a même des situations de harcèlement. Bien des choses peuvent se passer comme cela. Il semble que tout va mal. Des couples qui se séparent. Et sans l'espoir de la résurrection ce matin, sans la connaissance de la victoire de Christ sur le péché, sur l'esclavage du péché, sur la puissance de la mort, eh bien nos épreuves peuvent sembler comme la fin de notre histoire personnelle. Mais ce n'est pas le cas. Et peut-être que la vie s'est présentée à nous comme une situation difficile, comme une sorte de route qu'on ne pourrait pas pratiquer, qu'on ne pourrait pas emprunter. Et peut-être qu'on se demande, Dieu est-il à l'œuvre dans mes circonstances? Dieu est-il à l'œuvre dans ma vie? Dieu est-il à l'œuvre alors qu'il m'arrive tout cela? Jésus triomphe-t-il vraiment en moi? Est-ce qu'il va triompher dans ma situation? Peut-il réellement me délivrer de cette situation accablante? Peut-il vraiment et actuellement apporter la guérison à mon cœur? Personnellement, je ne vois aucune issue devant moi. On est comme ses disciples, barricadés dans notre cœur, barricadés dans notre situation et surtout empêchés devant la pierre qui est roulée et qui symbolise pour nous la mort, la fin de toute chose à nos yeux. Et comme les disciples, certains chrétiens posent ces questions surtout derrière leurs portes fermées. Ils sont émotionnellement fermés à Dieu à cause de cette situation. Ils ne sont plus en capacité de répandre leur cœur devant Dieu parce qu'il y a ce blocage, il y a cette pierre qui est là et ça les rend, ça brise leur cœur, ça les empêche de prier. Ils sont comme bloqués. Mais ce n'est pas parce qu'on est bloqué dans la prière que Dieu ne va pas nous exaucer. Parce qu'il y a aussi le cri déchirant du cœur, vous savez. Et c'est aussi comme un soupir, comme une prière qui monte vers Dieu. Et il ne suffit pas simplement d'être quelqu'un qui prie, mais parfois, quand on ne peut plus, il n'y a plus que le soupir de l'âme, il n'y a plus que le cri silencieux de notre âme qui va vers Dieu et qui se répand. Et Dieu entend même ce cri-là, le cri silencieux. Le Saint-Esprit, nous est-il dit, nous aide à intercéder, parce que dans notre faiblesse, on ne sait pas comment demander. Et des fois, on est tellement accablé, tellement assailli de problèmes, qu'on ne sait même plus comment prier. Et si le Saint-Esprit ne venait pas à notre secours pour nous aider à savoir comment prier, à un moment donné, eh bien, nous serions bien embêtés. Et puis, parfois, nous sommes aussi aidés par les quatre amis. Ce qui est symbolisé dans la Bible, vous savez, les quatre amis qui amènent le paralytique et qui font passer le paralytique par le toit d'une maison pour qu'il atteigne Jésus. Eh bien, des fois, nous avons aussi le secours de nos frères et sœurs dans la prière, qui est quelque chose d'important. Nous avons raison de prier les uns pour les autres et d'être ses amis. Parce qu'alors que nous sommes comme paralysés, comme impotents devant la situation, d'autres ont pris le relais et prennent nos mains, un peu comme Aaron et Hur ont pris les mains de Moïse pour intercéder pendant que Josué combattait les Amalécites dans la vallée. Eh bien, il y a ces frères, ces sœurs qui prennent notre cas à cœur et qui prient pour nous et qui sont en train de nous amener au trône de la miséricorde et qui sont en train de déposer notre besoin entre les mains de Jésus et lui permettre encore de faire mouvoir sa main puissante pour nous délivrer. Amen. Ça, c'est le côté, malgré tout, sombre de la situation. Et puis passons dans un deuxième plan, qui est l'autre vision de l'autre côté de la pierre, cette fois-ci. Mais j'aimerais vous poser une question, parce qu'on l'a même chanté tout à l'heure, parce que je me demandais si j'allais parler de ça, mais finalement, comme on l'a chanté, je me dis, allons-y. Satan, où se trouvait-il pendant la période de 3 jours de la mort de Christ, durant son ensevelissement, durant sa résurrection? Souvenez-vous bien d'une chose, c'est que le diable n'est pas omniprésent. Il y a des gens qui voient le diable partout. Bizarrement, ce sont des chrétiens. C'est ça qui est étonnant. Ils voient le diable partout. Le diable n'est qu'en un seul endroit. Le diable, il n'a aucune puissance, pratiquement. Il n'a plus que sa psychologie à 4 balles pour nous faire peur. Vous voulez un exemple? Regardez dans la vallée, dans cette vallée où David a été, le jeune David a été obligé d'intervenir. Vous avez Goliath face à l'armée d'Israël, la grande armée d'Israël avec ses vaillants hommes, et un seul gars qui est juste un peu plus haut que la taille normale, hein. Enfin, il faisait quand même 3,70 m de haut, je crois. Mais néanmoins, ce n'est pas un géant qui rend dangereux les choses, vous savez. L'important, c'est ce qu'on a là, la mentalité, le mental, la foi qu'on peut avoir. Et David l'a prouvé. Alors que cet homme, nous est-il dit, pendant 40 jours, il a aboyé. Il a fait que causer, comme les Français. Ils causent beaucoup, les Français, ils font pas grand-chose. Vous avez remarqué? Ils ont tous des idées, ils ont un esprit d'équipe, et puis, il y a des idées. Ils n'ont pas de pétrole, vous remarquerez, mais ils ont beaucoup d'idées. Eh bien, Goliath, il parlait beaucoup. Mais à aucun moment, il n'a avancé pour attaquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait le trouillomètre à zéro devant l'armée d'Israël. Sauf que l'armée d'Israël ne savait pas, elle ne connaissait pas son autorité spirituelle, elle ne connaissait pas sa puissance. Même le roi Saül tremblait dans son armure. Et le jeune David est arrivé avec l'onction du Saint-Esprit. Et lui, il est allé au casse, comment on dit, au casse-pipe, il est allé à la castagne. Et au nom de l'Éternel, il a vaincu le géant. Le géant, il n'a plus pu parler parce qu'il s'est fait couper la tête. Eh bien, pourquoi je disais ça d'abord? Ah oui, parce que le diable, il est comme cela. Sa puissance, elle est limitée à ce qu'il nous dit. N'est-il pas appelé l'accusateur des frères? Ça veut dire qu'il cause beaucoup, il déblatère, il accuse les saints de Dieu, il accuse les élus de Dieu. À chaque fois que nous trébuchons, à chaque fois que nous péchons, il nous accuse. Mais la Bible nous dit que qui accusera les élus de Dieu? Hein? Nous sommes des gens justifiés, nous sommes des gens purifiés, des gens sanctifiés. Et à chaque fois que le diable nous accuse, eh bien nous devons nous réfugier dans les bras de notre Père Céleste. Le diable n'est pas omniprésent, mais Dieu, lui, il est partout, en tout temps. Et il sait tout, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Les démons de Satan peuvent être stationnés partout dans le monde, c'est vrai, aux 4 coins de l'horizon, ils répandent leur poison mortel, mais l'ennemi lui-même ne peut pas être à tous les endroits en même temps, et les démons non plus d'ailleurs. Il ne peut qu'être à un endroit à la fois. Alors, vous posez la question, où était-il durant la crucifixion? Il me semble discerner dans le psaume 22, au verset 13 et 14, la présence satanique et démoniaque à la croix. Celui qui est sur la croix et qui finalement s'est prophétisé presque 1000 ans avant la croix, dans le psaume 22, psaume de David, il est dit « De nombreux taureaux m'environnent, ces fortes bêtes du Bashan sont tout autour de moi, ils ouvrent largement leur gueule contre moi, ils sont comme un lion qui rugit et déchire. » Vous savez, c'est le psaume où il est dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui décrit tellement le supplice de la croix, qui décrit tellement les souffrances de notre Sauveur avant la résurrection. Et personnellement, je crois que Satan était présent à la croix pour se réjouir, parce que c'est un sadique, c'est un prince cruel. Et je l'imagine se réjouissant de chaque aspect des souffrances de Jésus. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce titre-là, Mel Gibson, quand il a fait son film La Passion, a très bien vu les choses. C'est vrai que c'est un film un peu violent, mais la croix a été un phénomène violent. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde cruel, où le prince des ténèbres voulait empêcher le salut de l'humanité, où le prince des ténèbres est Dieu. Il déteste tout ce qui est de Dieu. Et donc, c'était violent, la croix. Et je l'imagine se réjouissant de chaque aspect des souffrances de Jésus, de chaque strie dans le dos de Jésus, lorsqu'il était fouetté. Donc, la Bible nous dit que son dos était labouré. Il s'est réjoui de cela. Il s'est réjoui de chaque coup de poing qui était donné à Jésus par les soldats qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. D'où la parole de Jésus, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. De chaque coup de marteau enfonçant les clous dans les mains de notre Sauveur, dans ses pieds, tous les crachats, toutes les moqueries, il s'est réjoui de cela parce qu'il est cruel. Et ce sont certainement les dernières heures de Jésus, il les a vécues avec cette violence-là. Et pourtant, il était majestueux sur la croix. Les 7 dernières paroles sur la croix sont quelque chose d'extraordinaire. Un objet de prédication, je pense, on en a pour des centaines d'années encore à prêcher sur les 7 paroles de Jésus sur la croix. Tellement il y a à dire. Mais Satan joyeusement comptait le compte à rebours. Et il disait 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est fini pour toi, Jésus. C'est la fin pour toi. J'ai triomphé du Fils de Dieu. Il va mourir. Les ténèbres vont pouvoir régner désormais partout. L'incrédulité va régner partout. Et il va presque se dire, « Ah ben oui, Jésus, si seulement tu avais bien voulu t'allier à moi, eh bien on aurait pu régner tous les deux. » Bien sûr, c'est le diable qui aurait régné, évidemment, parce que c'était un piège que lors de la tentation, quand il a proposé à Jésus de régner avec lui quand même. Mais il a dit, « Voilà, c'est ce qui se passe quand on ne me choisit pas, quand on ne veut pas m'adorer. Vous êtes des losers et moi je gagne. » Voilà ce qu'il dit dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Et voilà comment il traîne les gens dans les ténèbres, dans toutes sortes de situations avilissantes, dans l'esclavage. Et j'imagine ensuite Satan au tombeau, observant les soldats qui roulaient la pierre et qui scellaient l'ouverture. Et quand ce rocher, d'un seul coup, a claqué d'un bruit sourd pour fermer toute issue, toute entrée, toute sortie d'ailleurs, j'imagine le diable en train de laisser échapper un cri de triomphe. Il faisait appel à tous ses amis démons en disant « Maintenant, on va faire la fête. On va tous aller en discothèque ce soir. On a gagné !» On va organiser une fête comme le monde n'en a jamais vu. Et le diable était en train de faire cette déclaration de victoire. Et certainement qu'à un moment donné, alors qu'il était en train de causer, il n'a pas pu finir la phrase. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une secousse puissante qui s'est fait sentir. Soudainement, alors que les choses étaient en train d'aller plutôt dans le sombre, dans les ténèbres, on a entendu un bruit. La terre a commencé à gronder. La terre a commencé à trembler. Et on peut imaginer donc Satan s'arrêtant au milieu de sa phrase, de sa violence, pour regarder la pierre géante qui était pourtant inamovible et qui, d'un seul coup, a tremblé et a été ensuite roulée. Et finalement, le tremblement a fait complètement rouler la pierre et les démons se sont mis à trembler. Et on le voit bien dans le film de la Passion, parce qu'à la fin, vous voyez le diable qui s'était réjoui et d'un seul coup, vous le voyez crier de terreur. À la fin du film. Et le réalisateur a vraiment très bien vu spirituellement les choses. D'ailleurs, c'est très bien représenté. Je crois que c'est même, malgré sa violence, un des meilleurs films sur le sujet, parce qu'on voit tout. On voit en filigrane tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Et c'est vraiment très intéressant, parce qu'on comprend mieux, à la lumière de ce film, enfin, je parle surtout pour les gens du monde, ils peuvent mieux comprendre ce qui se passe. Nous le savons parce que la Bible nous en parle, et c'est suffisant pour nous. Mais alors, tout le monde a vu, enfin, toutes ces puissances spirituelles ont vu une lumière aveuglante d'un seul coup rayonner en dehors du tombeau. Ils ont pu distinguer un corps humain, un corps ressuscité, un corps illuminé de clarté, un corps qui se tenait dans l'entrée. Et puis, il y a une voix qui est provenue de cette porte remplie de lumière et qui a dû dire « Satan, tu m'as mordu le talon, mais moi, je suis sur le point de t'écraser la tête. Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô mort, où est ta victoire ? Le Christ est ressuscité. » Et toutes les situations mortifères, toutes les situations où la pierre est roulée et nous empêche eh bien, d'avancer, nous empêche eh bien, d'être dans le succès, dans la victoire spirituelle, eh bien, à cause de la résurrection, il peut ne plus en être ainsi. C'est la fin du règne de l'ennemi dans nos vies. Et c'est le début du royaume de Dieu dans nos situations. Et voilà la parole que certainement le Seigneur a donnée à l'accusateur. Fini la fête. La fête est finie, Satan, tu es vaincu. L'odeur de mort que tu as portée avec toi est maintenant partie. Et je proclame maintenant la victoire sur le péché et sur la mort. Et il y a des odeurs de mort parfois dans notre vie, on l'a vu tout à l'heure. Mais Jésus, il est là pour venir nous apporter la vie abondante de résurrection qui est la sienne. J'aimerais rappeler ces passages Et je lisais ce matin dans le livre des Actes, je crois qu'il y a une vingtaine, ou si ce n'est pas plus, je n'ai pas compté, de références à la résurrection de Jésus dans le livre des Actes. Les premiers disciples, l'Église primitive, vivaient dans la perspective de la résurrection de Jésus. Ils vivaient vraiment Jésus comme étant vivant au siècle des siècles et travaillant avec eux dans la confirmation de la parole qui était annoncée. Et ses disciples, eh bien, n'hésitez pas à dire les choses. Dans Acte 2, verset 24, Pierre va dire « Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. » Et bien sûr, ça avait une conséquence sur la vie des chrétiens, puisque eux-mêmes avaient connu une résurrection spirituelle. Et ils vivaient dans la puissance du Saint-Esprit, qui est une puissance de vie, une puissance de résurrection. Paul dira en Romains chapitre 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Quelle espérance ! Nous ne sommes pas des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont dans l'espérance d'aller juste dans une tombe, mais nous savons que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, alors même que nous sommes des hommes et des femmes vivant sur cette terre, le même Esprit va nous ressusciter et va nous donner un corps glorieux lorsque nous entrerons dans le royaume de Dieu, quand nous franchirons les portes de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia ! Nous avons cette espérance, c'était l'espérance de l'Église primitive, c'est ce qui a poussé des hommes et des femmes à être des martyrs, à accepter de mourir pour leur foi, mourir pour Jésus-Christ et son nom glorieux, et nous sommes aujourd'hui au même bénéfice de cette vie de résurrection, et tout ce qui avait une odeur de mort dans notre vie va passer parce que la vie de résurrection est là, la vie de Jésus est à notre disposition, elle est disponible pour empêcher cet obstacle qui est devant nous, eh bien, de subsister, de rester. Il va briser le roc de la pierre, et cette pierre de mort, cette pierre qu'il faut rouler, plus que la rouler aujourd'hui, il en brise la substance. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir cette rage en nous, cette rage de la victoire, cette rage de la passion pour Christ, parce que nous sommes vivants. Et si nous ne sommes pas assez vivants ce matin, demandons au Saint-Esprit de nous rendre plus vivants. Demandons au Seigneur de faire abonder sa vie de résurrection dans notre esprit. Et vous allez voir, vous allez exploser, pas en vol, mais vous allez exploser de manière durable. La vie abondante, c'est ce qu'a promis Jésus. Alors qu'est-ce que ça représente concrètement dans nos vies ? J'ai pris quelques témoignages pour illustrer un peu comment des fois des hommes, des femmes se sont retrouvés d'un côté de la pierre, mais ont vu ensuite ce qui se passait de l'autre côté. Il y avait, et ça c'est un témoignage récent que j'ai entendu, un pasteur qui a un ami, et cet ami chrétien fidèle faisait partie d'un groupe de louanges, était membre d'un groupe de louanges. D'un seul coup, il est tombé amoureux d'une femme qui l'assistait dans son travail, et puis elle est venue à l'église avec lui, elle s'est convertie. Et puis ça a été quelque temps. Et puis sa femme, un jour, est partie. Elle est retombée dans son ancienne vie. Elle est retombée dans le péché. Alors il a espéré, il avait le cœur brisé, il aimait vraiment cette femme. Et il a espéré, il a prié, Mais il s'est retrouvé dans cette situation, une situation de mort. Une situation avec une pierre là qui est là et qui ne bouge plus. Et cet homme, Il a commencé à désespérer, il a commencé à déprimer, il a commencé à prendre des somnifères parce que sa vie devenait difficile dans cette perspective-là. Et puis, malgré tout, il s'est accroché. Mais au début, il ne savait plus comment il s'appelait, il ne connaissait pas l'issue de sa situation. Et il était plutôt du côté de ceux qui barricadent leur cœur et qui sont dans des portes fermées et qui ne voient pas l'issue, qui ne voient pas l'horizon nouveau que le Seigneur pourrait faire naître dans sa situation. Et puis, à force de persévérance dans la foi, à force de persévérance dans la vie chrétienne, il s'est aperçu que sa femme avait fait un choix, qu'elle ne reviendrait pas, et que c'était son choix. Et malgré les années qui avaient passé, elle continuait à vivre dans sa situation. Alors, cette femme a voulu le divorce d'ailleurs, etc. Donc, il a vu que la situation là, elle était morte, mais que lui, il n'était pas mort pour autant. Et puis un jour, eh bien, le Seigneur a mis devant lui une autre femme. Et c'était l'épouse dont il avait besoin. Une femme qui n'était pas de son monde d'ailleurs, parce qu'elle était directrice générale d'un grand groupe aux États-Unis. Et lui, il était dans la louange en fait. Il était à plein temps dans la louange. Parce qu'aux États-Unis, il y a des grandes églises. Et parfois, on est employé et on travaille vraiment toute la journée pour préparer eh bien, les diverses réunions, les cultes, etc. Et c'est un véritable ministère. Et lui, il était là-dedans et cette femme était directrice générale. Mais ils se sont trouvés. Elle était une adoratrice fervente, une femme vraiment de conviction dans la foi. Et puis, eh bien, ils se sont mariés. Et là, c'est la vie de résurrection qui a à nouveau jailli dans la vie de cet homme. Il a redécouvert là, une vie de couple formidable, une unité dans son couple. Voilà, et il n'avait pas entrevu la solution, il n'avait pas pensé même que ce serait encore possible. Pour lui, il avait échoué, c'était impossible. Sa femme, son ex-femme ne reviendrait pas. Alors il n'imaginait même pas pouvoir refaire sa vie. Et le Seigneur l'a conduit. Et aujourd'hui, cet homme, il a franchi des étapes dans sa vie spirituelle. Aujourd'hui, il est dans une plus grande dimension de ministère au niveau de la louange, dans un ministère américain assez prépondérant. Et s'il n'avait pas vécu toutes ces épreuves, il n'aurait pas cette vie de louange qu'il a aujourd'hui. C'est un peu comme les fils de Corée. Ceux-là, ils étaient des pauvres gens, les fils de Corée, parce qu'ils avaient un drôle d'héritage. Ils étaient les fils ou arrière-petits-fils d'un rebelle. Et ils étaient la honte en Israël. Ils devaient avoir honte de ce qu'avait fait leur ancêtre. Ils avaient survécu bizarrement, alors que la Bible semblait nous dire que toute la famille de Corée avait été condamnée. Eh bien non, il en subsistait quelques-uns. Et ce sont ceux qui sont devenus les louangeurs de Dieu. Vous trouvez le psaume 142, je crois, ou le psaume 42 plutôt. Mon âme, pourquoi t'as battu au-devant de moi ? Là, ils sont d'un côté de la pierre. Et ensuite, ils sont de l'autre côté de la pierre quand ils disent mon âme espère en l'Éternel. Ils ont franchi un cap. Et c'était extraordinaire, la vie des fils de Corée. Ils sont passés de la honte à la louange. De la honte à la célébration du Seigneur. Voilà comment Dieu peut transformer la vie des gens. Et puis, il est temps que nous entendions, finalement, dans nos situations, à notre tour, des secousses, le grondement, le tremblement sous nos pieds qui vient de la vie qui est en train de jaillir, la vie de résurrection, les signes que Jésus veut agir dans notre vie parce qu'il est la résurrection. Et la vie, il y a vraiment un timing de Dieu dans nos vies. Comme il y a eu un timing de Dieu pour que Jésus vienne sur la croix. Il est dit qu'au temps marqué, Christ est mort pour des pécheurs. Et au temps marqué aussi, il est ressuscité, c'est-à-dire le troisième jour. Il y a eu un temps marqué pour l'histoire du salut des hommes. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre de l'autre côté de la pierre, même quand nous ne voyons pas ce qui se passe de ce côté-là. J'ai lu aussi un autre témoignage. C'est un pasteur qui raconte « J'ai un ami appelé Eric, c'est pas moi, mais bon, voilà, il s'appelait Eric aussi, qui a eu une enfance difficile. Son père lui répétait constamment « Tu es un échec, tu n'es pas bon, tu ne feras jamais rien de bien. » Et quand Eric a grandi, il s'est tourné vers les drogues, et alors qu'il s'y adonnait, il dit « Je suis devenu un terrible drogué. D'abord, j'étais terrible au niveau de l'intensité des drogues. Je mélangeais toutes sortes de choses qui auraient pu me tuer, mais j'étais aussi terrible à cause de l'esclavage que provoquait la drogue. » Mon aiguille se cassait, ou bien parfois j'étais à court d'argent pour nourrir mon habitude. Je ressentais alors un échec, même en tant que drogué. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que même dans la drogue, il ne réussissait pas à se droguer. Que même là-dedans, il n'était dans l'échec. La vie d'Éric est devenue une vraie pagaille. Son addiction lui a pris tout son argent. Et une nuit, il a décidé de voler un magasin de location pour acheter plus de drogue. Mais il a même échoué à cela. Il a raté le braquage. Il a dégainé un pistolet, il a crié « Tout le monde debout contre le mur !» Mais le magasin était tellement rempli que les gens ne pouvaient pas tenir contre le mur. Alors comme il était confus, il s'est enfui. Et même ça, il n'a donc pas réussi à le faire. Alors il a décidé de mettre fin à sa vie. Il a pris le pistolet dont il s'était servi pour le cambriolage, dans l'intention de se tirer dessus, évidemment. Mais il a fait tomber le pistolet, et il a fait feu, et il s'est blessé à une côte. Même son suicide, il l'a raté. Et tandis qu'il était conduit à l'hôpital, il pensait « Je suis un tel échec que je ne peux même pas me tuer moi-même. » Après avoir été soigné, Eric marchait dans la rue dans un désespoir total. et au plus profond de lui, il était en colère contre Dieu d'avoir fait de sa vie un échec. Et finalement, alors qu'il était contre Dieu, il s'est mis à crier à Dieu. Le Dieu dont il ne s'était jamais occupé, le Dieu à qui il avait tourné toujours le dos, et lui a demandé « Es-tu quelque part ? Y a-t-il une raison pour que je sois en vie ?» Et Éric a entendu une voix lui dire « Je vais t'envoyer une lettre d'amour. » Il a juste entendu cela. Et sans avoir pourquoi, il savait que c'était la voix de Jésus, parce qu'on la reconnaît toujours, même quand on ne le connaît pas. Et tandis qu'Éric s'asseyait sur un trottoir, eh bien l'eau de pluie coulait le long de la gouttière, à côté de lui, sous lui même. Et d'un seul coup, il a remarqué un petit livret qui flottait vers lui, comme ça, qui était amené par le courant de cette eau qui jaillissait de la gouttière. Éric a attrapé le petit livret, et il s'agissait d'un tract d'un ministère qui disait « Il y a de l'espoir pour les drogués ». Et le tract était publié par Victory Outreach, ministère Victoire. Éric regarda donc l'adresse du ministère qui éditait ce tract. Il s'est rendu à l'endroit et c'est là qu'il a donné sa vie à Jésus. Et très vite, il a été délivré de son addiction. Très vite, il a abandonné ses habitudes et même le fait de croire qu'il était un échec. Et sa vie a été totalement bouleversée, totalement transformée. Jésus a fait d'Éric une nouvelle créature dans bien des aspects, bien des choses. Un jeune homme qui avait pensé que sa vie était finie, mais qu'elle ne faisait finalement que commencer. Il ne pouvait pas voir la vie, il ne voyait que la mort, mais là il va voir la vie de résurrection, ce que Jésus avait planifié pour lui de l'autre côté de la pierre du tombeau. Et une année plus tard, Éric s'est approché de ce pasteur qui raconte l'histoire et il lui a demandé « As-tu un travail pour un jeune pasteur qui était guéri, qui est libéré, qui est en feu pour le Seigneur ?» Évidemment, le pasteur avait du travail pour lui dans le ministère et il l'a engagé dans l'église pour qu'il devienne un pasteur dans l'église. Et ce gars va toujours témoigner, à chaque fois qu'il témoigne, il dira « Jésus m'a envoyé une lettre d'amour et il vous envoie une lettre d'amour à vous à votre tour ». Pensez donc à toutes les lettres d'amour que finalement Jésus l'a écrites de l'autre côté de la pierre du tombeau à chacun de nous ici présents et d'autres encore qui ne sont pas là. Un autre exemple de situation, un couple qui était marié depuis une décennie, puis un jour la femme, une première fois, elle a quitté son mari. Et puis elle est revenue, c'était des chrétiens, et elle a quitté son mari pour la deuxième fois. Ce n'était pas un couple qui se disputait souvent, ce n'était pas un couple qui se faisait des remarques continuellement, c'était un couple qui s'entendait bien, ce n'était pas un couple qui était en désaccord sur tout et sur rien. Mais la difficulté qui était là, c'est que dans le cœur de cette femme, il y avait une addiction. Alors, ce n'était pas une addiction à la drogue ni à l'alcool. Elle avait une addiction à tout ce qui est fête mondaine. Et en fait, il fallait qu'elle aille faire la fête le soir, qu'elle aille faire la bringue. Ça revenait constamment dans sa vie. Et évidemment, elle laissait son mari pour aller faire la bringue. Elle se plongeait dans ce bourbier. Et la même chose était arrivée donc une première fois. Et à ce moment-là, elle avait déjà quitté son mari, elle avait commencé à aller avec d'autres hommes. Et voilà que le scénario de cauchemar se répétait à nouveau pour cet homme qui avait repris sa femme. Mais pourtant, elle voulait revenir vers lui à chaque fois. Et cet homme, il était ravagé. Il a dit au pasteur, quand elle a fait cela la première fois, ça m'a déjà brisé le cœur. La douleur, c'était déjà quelque chose de plus profond que ce que je pouvais supporter. Je ne savais pas si je pourrais encore l'aimer. Mais pour autant, je l'ai quand même repris. Nous avons lutté dans la prière et nous avons même traversé cette épreuve. Mais maintenant, voilà, il n'y a plus d'issue. Là, c'est une situation de mort. Là, la pierre, elle est roulée définitivement. Je sais que je ne peux plus l'aimer après cela. Là, je suis au-delà de la douleur, disait cet homme à son pasteur. Je ne ressens plus rien. D'ailleurs, comment pourrais-je lui faire encore confiance après tout cela? Comment pourrions-nous entrevoir encore un avenir florissant tous les deux alors qu'elle a prouvé qu'elle pouvait faire ce qu'elle a fait et que sans doute elle le refera? Personne qui connaissait ce couple ne pouvait imaginer que ce mariage pouvait survivre. Beaucoup conseillaient le divorce à cet homme. Beaucoup lui disaient « Fais disparaître cette femme de ta vie parce que là, tu ne peux plus. » quoi. Et on peut comprendre cela d'ailleurs. Hein. Mais cependant, alors même que le mari sentait qu'il aurait dû faire ce que les gens lui disaient, il va aussi sentir les soubresauts, il va sentir le grondement, il va sentir le tremblement de cette résurrection qui pointe à l'horizon de l'autre côté de la pierre. Il a senti que Dieu agissait. Et il a entendu le Seigneur murmurer à son cœur, « Si tu l'aimes de la même manière dont je t'aime, ton mariage sera restauré. » C'est une parole du Seigneur. Tout le monde ne reçoit pas la même parole. Et le mari a donc résisté à la tentation de divorcer. C'était même encore douloureux pour lui d'espérer que, à nouveau, eh bien, le mariage pourrait subsister à cela. Il était même douloureux d'essayer pour lui de faire confiance à sa femme. Mais Dieu a délivré sa femme selon la promesse qu'il avait faite. Cette femme a été libérée de sa chaîne, libérée de son addiction. Et aujourd'hui, ce couple est à nouveau ensemble. Et ils sont dans une unité et une communion parfaite. Ils adorent et louent Dieu ensemble. Ils ont été réconciliés et guéris dans leur cœur et s'aiment profondément et sont un exemple pour tous ceux qui les entourent. Un couple qui est un témoignage de la capacité de Dieu à transformer, à restaurer ce qui semble irréparable. Même les relations les plus endommagées, même les relations rompues ne sont pas hors d'atteinte de la puissance de résurrection du Seigneur. Ce couple avait besoin de la vie de résurrection, la vie au-delà du tombeau. Et c'est exactement là que Jésus était en train d'agir pour eux. Il était de l'autre côté de la pierre, préparant l'issue de cette situation. Le frère Franck Alexandre, l'évangéliste, nous racontait qu'il avait été attiré un jour, il était en train de déjeuner avec des pasteurs en Argentine, lorsqu'il était allé là-bas, et il a été attiré par un couple qui servait. Il était étonné de la manière dont ils étaient en train de servir les pasteurs à table. Ils avaient une façon d'être. Ils avaient une façon d'être et de se tenir qui était particulière. Ils avaient une manière d'être ensemble qui était particulière. Ils étaient unis dans le service qu'ils accomplissaient et ça se voyait. Ça avait une touche divine. Il y avait quelque chose de plus qu'un couple en train de servir à table. Et c'est le frère Alexandre a été attiré par ce couple-là en les voyant. Et il a demandé au pasteur, mais ils ont quelque chose de spécial, ces gens-là. Et il a dit, oui, tu peux le dire. Sais-tu qui sont ces gens ? En fait, cette femme était une prostituée. Elle s'est convertie. Elle a été libérée dans sa vie du péché. Et lui, c'était le proxénète de cette femme. C'était le souteneur. Donc c'était lui qui la mettait sur le trottoir. Et lui aussi s'est converti. Tous les deux ont été transformés, ce ne sont plus les mêmes. Ils se sont mariés parce qu'ils se sont aimés. Le Seigneur les a rapprochés l'un de l'autre. Et aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur deux nouvelles créatures. Et ils servent de cette manière-là, sous le régime nouveau du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu est capable de faire. La vie de résurrection capable de transformer une prostituée et un proxénète et même de les faire se marier et de devenir un couple exemplaire. La puissance de Jésus. Une jeune femme droguée. La maman l'avait mis dehors parce que, en fait, elle préférait être avec des hommes plutôt que de s'occuper de sa fille. Déçue par son propre couple avant, alors elle cherchait d'autres hommes. Elle cherchait à satisfaire ses propres besoins et elle a laissé sa fille seule. Et sa fille s'est retrouvée aussi sur le trottoir à cause de la drogue. Jusqu'au jour où cette jeune femme, droguée, désespérée, va se retrouver eh bien, dans une église. Et le Seigneur, là aussi, va transformer cette situation de mort en situation de résurrection. Et aujourd'hui, cette jeune femme, on la remarque aussi. Il y a une pureté, il y a une sainteté, il y a un sceau divin sur sa vie qui est remarqué par tous. Elle fait aujourd'hui partie de la Brooklyn Tabernacle Choir, la chorale de l'église d'une assemblée qui s'appelle l'église du Tabernacle de Brooklyn. Le chant Majesté, vous savez, Majesté. Le pasteur de... Non, c'est pas celui-là, je confonds, excusez-moi. Je pensais que c'était de là qu'elle venait, mais non. C'est le pasteur Jim Cimbala qui est là-bas et qui a écrit quelques livres, etc. Et c'est lui qui raconte cela. Il en raconte des témoignages comme ça de transformation extraordinaire. Même des prisonniers qu'il suit aujourd'hui à distance et qui sont transformés et qui ont transformé même la prison. Vous voyez des études bibliques dans la prison au lieu de voir des gars se castagner toute la journée. Extraordinaire transformation opérée par le Saint-Esprit. Et puis, vous avez la victoire sur la mort, parce qu'il y a un au-delà. La mort, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la mort deux points ou la mort point final. C'est plutôt la mort, virgule, et ensuite la résurrection. Jésus a vaincu la mort. Jésus lui-même est ressuscité. Dans son ministère, il a ressuscité des morts. Les disciples ont ressuscité des morts. La résurrection de Dorcas, la résurrection d'Eutychus. C'est une réalité. Il y a un au-delà avec Dieu. Il y a quelques années maintenant, c'était en 1988, mon père m'en faisait voir de toutes les couleurs quand je lui annonçais l'Évangile. Il avait voulu me balancer une cocotte sur la tête. Et puis, au fur et à mesure, il écoutait. Et moi, j'étais un peu jeune, un peu fougueux, je ne me rendais pas compte que mon père, la semence, était en train de travailler son cœur. Et puis, on est maladroit quand on est le fils de son père. Vous savez bien, les relations ne sont pas toujours simples. Même quand on est converti, ce n'est pas simple de parler à son père. On n'a pas la maturité pour encore. Il y en a qui arrivent bien, d'autres non. Moi, j'avais un peu du mal avec mon père, et mon père avait du mal avec moi aussi. C'était plus facile avec ma mère, bizarrement. Et pourtant, mon père était plus ouvert que ma mère, curieusement. Et puis, eh bien, c'est justement deux chrétiens, dont justement Franck et son père, qui sont allés voir mon père sur son lit d'hôpital et qui l'ont amené à la repentance. Et là, mon père a donné sa vie à Jésus. Et quand nous avons fait l'enterrement à l'époque, eh bien, les gens nous disaient « C'est bizarre, on n'arrive pas à être triste parce qu'il y a une présence ici qui nous en empêche. » Et c'était la présence du ressuscité, la présence de Jésus qui nous fait voir au-delà de la mort. Et je sais que mon père, eh bien, est avec le Seigneur. Peu de temps avant, on avait fait l'enterrement du papa de mon épouse. Et ça s'était passé pratiquement pareil. À la dernière heure, cet homme que Dieu avait cherché, à l'époque, c'était le pasteur François Dupont, le pasteur Gaston Ramseyer, qui était allé dans les années 70 frapper à sa porte, frapper à la porte de ses parents pour annoncer l'Évangile. Ils venaient dans cette église à l'époque. Et puis, ils ont délaissé. Après, ils se sont détournés. Mais ils ont entendu l'Évangile très, très tôt dans leur vie, finalement. Et puis, eh bien, à l'heure de la souffrance, à l'heure de la maladie, il a fait la même chose que mon père. Il a donné sa vie au Seigneur dans ses derniers instants. Ce qui avait été semé a germé et est devenu une récolte. Et il est parti dans le ciel. Là aussi, nous étions très tranquilles par rapport à lui, parce qu'il y a un au-delà avec Dieu, et nous savons que même à la dernière heure, le Seigneur sauve. Le brigand sur la croix a été sauvé à la dernière heure. Et cet homme a compris qui était Jésus, et il l'a accepté à la fin de sa vie. Et ma belle-mère, de même, qui était malade, elle était en retraite, dans une maison de retraite, pardon, eh bien, ces derniers moments, c'était des derniers moments, alors qu'elle avait perdu la tête, on n'arrivait plus à la capter depuis longtemps, bizarrement, à l'heure de la mort. Et je crois que avant de mourir, les gens sont plus lucides que quand ils n'étaient pas sur le point de mourir, parce que l'esprit, tout ça, se réveille, parce qu'il va partir. Eh bien, elle se redressait, elle écoutait, et à chaque fois que je chantais, elle redressait la tête. Elle avait de la force, alors qu'elle était depuis 15 jours sous perfusion. Et les dernières paroles qu'elle a entendues sont « Vers Jésus, lève les yeux. » Le chant. Et la semaine d'avant, j'avais pu lui donner des versets le plus simplement possible. Je lui réannonçais l'Évangile. Et nul doute qu'au lieu de voir, eh bien, d'un côté de la pierre, ce sera l'autre qu'elle aura vu. Et en tout cas, selon ce qu'on nous a dit, elle est partie vraiment dans la paix. Et je crois vraiment que nous avons raison d'espérer jusqu'à la dernière minute, même jusqu'à la dernière seconde, pour ceux à qui nous annonçons l'Évangile. Certains refuseront, mais d'autres accepteront même à la dernière heure, même à la dernière minute, et s'en iront près du Seigneur qui les accueille, parce que c'est la foi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et qui plus est, quand on est dans ces derniers instants. Voilà des témoignages qui sont propres à nous laisser espérer beaucoup de choses. Et je crois qu'en conclusion, on peut être assiégé par les diverses épreuves de la vie, on peut être entouré, cerné par les accusations de l'ennemi, mais le Christ ressuscité est en train d'agir en notre faveur. Il est de l'autre côté de la pierre, et lui-même, il a nargué toutes les puissances de mort. Quand vous regardez la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du tombeau, et quand on est entré dans le tombeau, qu'est-ce qui se passait? Il y avait du linge, là. Jésus, il a plié le linceul. Il a plié le drap, là, soigneusement. C'était comme un dernier pied de nez à la mort. Tu vois, lève-la ta mort. Elle est pliée en quatre. Et maintenant, moi, je monte vers le ciel, je monte vers mon Dieu. Et de même, eh bien, le Seigneur est en train peut-être de plier quelques situations qui nous concernent. Il est en train d'écrire une autre histoire dans notre situation, une histoire de vie de résurrection. Il fait une apparition éclatante sur une scène qui était auparavant une scène de mort. Satan essaiera de nous séduire pour nous faire penser que tout est fini, que le tombeau est fermé alors qu'on ne peut plus rien faire. Mais Jésus veut nous dire, j'ai brisé tout cela. Le diable n'a pas eu le dernier mot. La mort a perdu son aiguillon. La lumière a vaincu les ténèbres. Et mon amour a vaincu tout mal. Jésus se tient à la porte. Il est l'espoir, ton espoir. Il est ton salut, il est ta guérison. Et la relation que tu vas avoir avec lui te permet d'être libéré par sa puissance de toute addiction, de toute chaîne, de tout tracas, de tout fardeau. Sa guérison peut même restaurer les relations brisées. Son amour a vaincu tout mal qui tente de nous abattre, de nous détruire, de nous ravir la joie de notre salut. Aucune ténèbre ne peut nous envelopper quand le Seigneur ressuscité arrive et qu'il vient stopper tout cela. Alors y a-t-il une pierre ce matin qui se tient entre nous et la délivrance que Dieu veut opérer en chacun de nous? Moi je vous le dis, Dieu est en action dans chacune de nos vies. À ce moment même où on est en train de parler, où je parle du moins, il n'arrive jamais en retard et il n'est jamais en train de ne rien faire. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, « Mon Père agit et moi j'agis ». La pierre est toujours en train d'être roulée dans diverses situations qui concernent des êtres humains. La lumière de Jésus va de l'avant. La lumière, c'est la vie des hommes. Et l'espoir se tient donc à notre porte, et cet espoir a un nom. C'est Jésus qui a triomphé de toute la puissance des ténèbres, et sa victoire, elle est la nôtre, par la foi que nous avons en lui. Nous pouvons nous identifier à sa victoire. Et Paul, d'ailleurs, nous a enjoint de nous souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous nous souvenons que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que dans notre situation, il se lève, qu'il vient bousculer l'ennemi, qu'il vient bousculer toute inimitié, qu'il vient bousculer tout esprit mortifère pour nous permettre d'être transformés à l'image de Jésus, à la gloire de Christ, à ressembler à la gloire de Christ, recevoir cette gloire en nous, dans nos vies. Nous en avons véritablement besoin. Et c'est valable, ce que je dis là est valable même à l'échelle d'une assemblée. Il y a des puissances de résurrection en Christ qui font qu'une église peut se lever, devenir comme une armée puissante dans un département et gagner des âmes, conquérir, aller de l'avant, marcher sur les plates-bandes de l'ennemi. Et comme nous avons reçu ce mandat, marcher sur toute la puissance de l'ennemi car rien, c'est bien écrit rien, hein, rien, vous savez ce que veut dire rien, rien ne pourra vous nuire. Alors on est loin des petits démons qui viennent nous chatouiller. La Bible dit, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur qui est vivant au siècle des siècles. Amen.